Sixième partie. Le mouron noir. Je ne suis pas rentré à la maison après le verdict. Les autres étaient d'humeur joyeuse et avaient envie de faire la fête, mais je savais que les autorités pouvaient frapper à tout moment et je ne souhaitais pas leur en donner l'occasion. Je voulais disparaître avant de recevoir un ordre d'interdiction ou être arrêté. Et j'ai passé la nuit dans une maison sûre à Johannesburg, une nuit agitée dans un lit inconnu. Et je sursautais à chaque bruit de voiture en pensant que c'était la police. La vie dans la clandestinité exige un changement psychologique radical. On doit prévoir chaque action, même si elle est apparemment insignifiante. Rien n'est innocent, chaque chose est remise en question. On ne peut être soi-même, on doit incarner chaque rôle qu'on épouse. D'une certaine façon, en Afrique du Sud, les Noirs n'ont pas tellement besoin de s'adapter. Sous l'apartheid, un noir menait une vie mal définie entre la légalité et l'illégalité, entre la franchise et la dissimulation. Être noir en Afrique du Sud signifiait qu'on ne devait avoir confiance en rien, ce qui ne différait pas beaucoup de passer toute sa vie dans la clandestinité. Je suis devenu une créature de la nuit. Je restais dans ma planque pendant la journée et je n'en sortais qu'à la nuit tombée pour faire mon travail. Je travaillais principalement à partir de Johannesburg, mais je voyageais autant qu'il était nécessaire. J'habitais dans des appartements vides, dans des maisons, partout où je pouvais rester seul sans me faire remarquer. Je suis quelqu'un qui recherche la compagnie, mais j'aime encore plus la solitude. J'accueillais cette possibilité d'être seul pour réfléchir et organiser. Mais on peut aussi avoir trop de solitude. Ma femme et ma famille me manquaient terriblement. La clé de la clandestinité, c'est d'être invisible. Tout comme il y a une façon de marcher dans une pièce pour se faire remarquer, il y a une façon de marcher et de se conduire qui vous font passer inaperçu. En tant que responsable, on cherche souvent à se mettre en avant. Quand on est hors la loi, le contraire est vrai. Quand j'étais dans la clandestinité, je ne me tenais pas aussi droit pour marcher. Je parlais plus doucement, de façon moins claire et moins précise. J'étais plus passif, plus discret. Je ne demandais rien et je laissais les gens me dire ce qu'il fallait faire. Je ne me rasais pas et je ne me faisais pas couper les cheveux. Mon déguisement le plus courant était celui de chauffeur ou de jardinier. Le rôle de chauffeur était commode parce que je pouvais voyager en prétextant conduire la voiture de mon maître. Au cours des premiers mois, alors qu'on avait lancé un mandat d'arrêt contre moi et que j'étais recherché par la police, mon existence de proscrit excita l'imagination de la presse. On publiait en première page des articles qui affirmaient qu'on m'avait vu ici ou là. On dressait des barrages routiers dans tout le pays, mais la police rentrait toujours bredouille. On m'avait surnommé le mouron noir, une version un peu péjorative du personnage de la baronne Orsi, le mouron rouge, qui échappait de façon téméraire à la capture pendant la Révolution française. Je voyageais secrètement dans tout le pays. J'étais avec les musulmans au Cap, avec les ouvriers du sucre dans le Natal, avec les ouvriers d'usine à Port-Élisabeth. Je traversais les townships dans différentes régions du pays et j'assistais à des réunions clandestines la nuit. J'entretenais même la mythologie du mouron noir, en téléphonant à des journalistes depuis des cabines pour leur raconter ce que nous allions faire ou pour leur parler de la sottise de la police. J'apparaissais ici ou là, aux grandes dames des autorités et pour le plus grand plaisir des gens. Dans la clandestinité, je restais aussi négligé que possible. Ma salopette semblait avoir connu toute une vie de dur labeur. La police avait une photo de moi avec la barbe, qu'elle avait largement diffusée, et mes collègues voulaient que je me rase. Mais j'aimais bien ma barbe, et j'ai résisté malgré leur insistance. Le débat sur l'utilisation de la violence durait entre nous depuis le début de 1960. J'avais parlé pour la première fois de la lutte armée avec Walter Sisulu dès 1952. Je lui en parlais à nouveau et nous fûmes d'accord pour reconnaître que l'organisation devait s'engager dans une nouvelle voie. Le Parti communiste s'était secrètement reconstitué dans la clandestinité et envisageait de former sa propre branche militaire. Nous avions décidé que je poserais le problème de la lutte armée au comité de travail et je le fis au cours d'une réunion en juin 1961. Un consensus s'était dégagé pour que je fasse la proposition à la direction nationale à Durban. La direction nationale accepta formellement la décision préparatoire du comité de travail. Le chef et d'autres suggérèrent que nous traitions de cette nouvelle résolution comme si l'ANC n'en avait pas encore discuté. Le chef ne voulait pas mettre en danger la légalité de nos alliés non interdits. D'après lui, un mouvement militaire devait être un organisme séparé et indépendant, lié à l'ANC et sous le contrôle général de l'ANC, mais fondamentalement autonome. Ce seraient deux courants de la lutte. Nous avons tout de suite accepté la suggestion du chef. La nuit suivante, une réunion des différentes directions était prévue à Durban. Y participaient le Congrès indien, le Congrès métis, le Congrès des syndicats sud-africains et le Congrès des démocrates. En général, ces autres groupes acceptaient les décisions de l'ANC, mais je savais que certains collègues indiens s'opposeraient énergiquement à ce changement vers la violence. La réunion commença à 8 heures, dans une atmosphère houleuse. Je donnais les mêmes explications et plusieurs personnes firent des réserves. J.N. Singh, un orateur redoutable, prononça cette nuit-là des mots qui me résonnent encore dans la tête. La non-violence ne nous a pas mal servi, dit-il. C'est nous qui avons mal servi la non-violence. Je lui ai répondu que c'était bien la non-violence qui ne nous avait pas servi, car elle n'avait rien fait pour arrêter la violence de l'État ou pour changer le cœur de nos oppresseurs. Nous avons parlé toute la nuit, mais au lever du soleil, nous avons abouti à une résolution. Le Congrès m'autorisait à former une nouvelle organisation militaire, séparée de l'ANC. La politique de l'ANC resterait la non-violence. J'étais autorisé à réunir tous ceux que je voulais ou dont j'avais besoin pour créer cette organisation et je ne dépendrais pas du contrôle direct de l'organisation mère. Nous avions franchi une étape décisive. Pendant 50 ans, l'ANC avait considéré la non-violence comme un principe central. Désormais, l'ANC serait une organisation d'un genre différent. Nous nous engagions dans une voie nouvelle et plus dangereuse, la voie de la violence organisée, dont nous ne pouvions connaître les résultats d'avance. Moi, qui n'avais pas été soldat, qui n'avais jamais combattu, qui n'avais jamais tiré un coup de feu sur un ennemi, on m'avait confié la tâche d'organiser une armée. Cela aurait été une entreprise intimidante pour un général en retraite, mais beaucoup moins pour un novice. Cette nouvelle organisation s'appelait Umkhonto Wesizwe, la lance de la nation, abrégée en MK. On avait choisi le symbole de la lance parce qu'avec cette simple arme, les Africains avaient résisté aux Blancs pendant des siècles. La direction de l'AMC n'admettait pas de blancs, mais MK n'avait pas ce genre de contraintes, et j'ai immédiatement recruté Joe Slovo, et avec Walter Sisulu, nous avons constitué le haut commandement dont j'étais le président. J'ai commencé par ce que je connaissais, en lisant et en parlant à des experts. Ce que je voulais trouver, c'était les principes fondamentaux pour commencer une révolution. J'ai découvert qu'on avait abondamment écrit sur le sujet. Chaque source de renseignement m'intéressait. J'ai lu le rapport de Blas Roca, le secrétaire général du Parti communiste cubain, sur les années d'illégalité pendant le régime de Batista. Dans Commando de Denise Reitz, j'ai lu les tactiques de la guérilla non conventionnelle des généraux Bourg pendant la guerre des Bourgs. J'ai lu des livres de et sur Che Guevara, Mao Zedong, Fidel Castro. Dans le très beau « Étoile rouge sur la Chine » d'Edgar Snow, j'ai vu que c'était la détermination et la pensée non traditionnelle de Mao Zedong qui l'avait conduite à la victoire. J'ai lu « La révolte » de Menachem Begin et j'ai été encouragé en voyant que le leader israélien avait mené une guerre de guérilla dans un pays sans montagnes et sans forêts, ce qui était une situation semblable à la nôtre. J'avais envie d'en savoir plus sur la lutte armée du peuple d'Éthiopie contre Mussolini et sur les armées de guérilla du Kenya, d'Algérie et du Cameroun. Mon adresse pendant ma clandestinité tenait plus du sanctuaire que de la planque. La ferme de Lily's Leaf, à Rivonia, une banlieue bucolique au nord de Johannesburg où je m'installais en octobre. À cette époque, Rivonia se composait surtout d'exploitations agricoles. Le mouvement avait acheté la ferme et la propriété pour avoir une planque destinée aux clandestins. C'était une vieille maison qui avait besoin de travaux et où personne n'habitait. Je m'y suis installé en prétextant être le gardien qui s'occuperait de la maison dans l'attente du propriétaire. J'avais pris le pseudonyme de David Motsamayi, le nom d'un de mes anciens clients. Je portais une salopette bleue qui était l'uniforme des domestiques. Pendant la journée, des ouvriers, des maçons, des peintres réparaient le bâtiment principal et les dépendances. Nous voulions ajouter de petites pièces à la maison pour qu'un plus grand nombre de gens puissent y séjourner. Les ouvriers étaient tous des Africains venant du township d'Alexandra et ils m'appelaient « boy » ou « garçon ». Je leur préparais le petit déjeuner et du thé dans la matinée et l'après-midi. Ils m'envoyaient aussi faire des courses à la ferme et me demandaient de balayer ou de ramasser les ordures. Les moments les plus heureux à la ferme, c'était quand ma femme et ma famille venaient me voir. Pendant ces week-ends, le temps semblait s'arrêter quand nous faisions comme si ces instants volés étaient la règle et non l'exception dans nos vies. De façon ironique, nous connaissions plus d'intimité à la ferme qu'à la maison. Les enfants jouaient dehors et dans cette bulle idyllique, nous étions en sécurité. En organisant la direction et la forme que prendrait MK, nous avons envisagé quatre types d'actions violentes. Le sabotage, la guerre de guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte. Pour une armée limitée et novice, la révolution ouverte était inconcevable. Inévitablement, le terrorisme donnait une mauvaise image à ceux qui l'employaient et détruisait le soutien public qu'ils auraient pu accueillir. La guerre de guérilla était une possibilité. Mais comme l'ANC avait hésité à adopter la violence, il semblait logique de commencer avec la forme de violence qui causait le moins de tort aux individus, le sabotage. Notre stratégie consistait à faire des raids sélectifs contre des installations militaires, des centrales électriques, des lignes téléphoniques et des moyens de transport. Des cibles qui non seulement entraveraient l'efficacité militaire de l'État, mais qui de plus effraieraient les partisans du Parti national, feraient fuir les capitaux étrangers et affaibliraient l'économie. Nous espérions ainsi amener le gouvernement à la table des négociations. On donna des instructions strictes aux membres de MK. Nous n'acceptions aucune perte de vie humaine. Mais si le sabotage ne produisait pas les effets escomptés, nous étions prêts à passer à l'étape suivante, la guerre de guérilla et le terrorisme. Par un chaud après-midi de décembre, dans la cuisine de Lily's Leaf, j'ai entendu à la radio que le chef Lutuli venait de recevoir le prix Nobel de la paix lors d'une cérémonie à Oslo. Cette récompense était un affront aux nationalistes, dont la propagande présentait Lutuli comme un dangereux agitateur à la tête d'une conspiration communiste. Mais cet honneur arrivait à un mauvais moment, car il coïncidait avec une déclaration qui semblait le remettre en question. Le lendemain du retour de Lutuli d'Oslo, MK annonça de façon spectaculaire son existence. Sur l'ordre du haut commandement, aux premières heures du 16 décembre, le jour où les Blancs d'Afrique du Sud célébraient la fête de Dingane, Des bombes artisanales explosèrent dans des centrales électriques et des bureaux du gouvernement à Johannesburg, Port Elizabeth et Durban. Un de nos hommes, Petrus Molife, fut tué par mégarde. La première mort d'un soldat de MK. Mourir à la guerre est une chose malheureuse, mais inévitable. Chaque homme qui rejoignait MK savait qu'on pouvait lui demander le sacrifice ultime. Les attentats prirent par surprise le gouvernement, qui les condamna comme des crimes odieux tout en les ridiculisant comme l'œuvre d'amateurs stupides. Ces sabotages firent également prendre dramatiquement conscience aux Sud-Africains blancs qu'ils étaient assis sur un volcan. Quant aux Sud-Africains noirs, ils comprirent que l'ANC n'était plus une organisation de résistance passive, mais une lance puissante qui porterait la lutte au cœur du pouvoir blanc. Nous organisâmes et exécutâmes une autre série d'attentats, 15 jours plus tard, pendant la nuit du jour de l'an. Le bruit combiné des cloches qui sonnaient et des sirènes qui hurlaient n'était pas seulement une cacophonie pour fêter le nouvel an, mais un bruit qui symbolisait une nouvelle ère dans notre lutte de libération. La déclaration d'Umkonto déclencha une contre-offensive haineuse et implacable de la part du gouvernement, à une échelle que nous n'avions encore jamais vue. La spéciale branche de la police se fixa comme mission prioritaire la capture des membres de MK et elle ne ménagea aucun effort. Nous leur avions montré que nous ne resterions plus inactifs. Ils allaient nous montrer que rien ne les arrêterait dans leur volonté d'extirper ce qu'ils considéraient comme la plus grande menace pour leur survie.